La première.
Mère! Regardez le petit dingue comme il est mignon. T-M-T-V-A. Répète.
11h30, 13h.
Le satellite naturel, la planète sauvage, est réservé à la méditation des dragues.
Avoir un homme domestique, ce n'est pas une mauvaise chose, ça distrait. Mais tous ces hommes sauvages, ils pillent, ils sont sales et se reproduisent à une vitesse folle.
Entrez sans frapper.
Extrait sonore d'un film dont nous allons parler maintenant avec vous, Dick, pour suivre cette émission spéciale cinéma de 87. On va remonter le temps jusqu'en 1973, année de sortie de La Planète Sauvage. C'est un film de René Laloux et de Roland Topor, très important. Et c'est à l'occasion de la sortie d'un livre de Fabrice Blin et de Xavier Kawatopor, intitulé L'Odyssée de la Planète Sauvage, qu'on va en parler avec vous. C'est chez Capricci. Pourquoi l'Odyssée? C'est quoi ce livre, Dick?
Oui, ben je suis assez heureux de pouvoir en parler parce que j'adore qu'on puisse faire aussi de l'histoire du cinéma d'animation.
Ben oui.
Et c'est une Odyssée parce que c'est une entreprise assez dingue que ce film qui est devenu aujourd'hui une œuvre culte. Alors c'est en effet un film qui est né d'une collaboration entre deux artistes hors normes, on va revenir dessus, hein, Laloux et Topor, qui propose une espèce de fable écologique et politique tout à fait étonnante et qui est sans doute une des premières incursions du cinéma d'animation dans le domaine de la science-fiction. On sait bien que l'animation a des rapports privilégiés avec le fantastique, le conte, le merveilleux, le burlesque même, ouais. Bien sûr, hein. Ce sont des genres qui ont été très investis, mais sans doute beaucoup moins la science-fiction, à l'exception sans doute du cinéma d'animation japonais. Mais on peut considérer vraiment que La Planète Sauvage a été un film pionnier en la matière. Et ce que ce très beau livre, très illustré, très bien documenté, va faire, c'est vraiment proposer une enquête sur le film, apporter beaucoup d'éléments de compréhension qui touchent à la fabrication de ce film, fabrication un petit peu épique, hein, puisque le film a été fait à Prague, c'est une coproduction entre la France et la Tchécoslovaquie, qui à l'époque est une terre vraiment importante de production de films d'animation. L'animation pragoise est absolument renommée. Le livre est très très illustré, on revient sur évidemment les personnalités phares qui ont permis sa création, on va analyser des dessins préparatoires, le scénario, le storyboard, toute une série d'articles extrêmement approfondis et vraiment analytiques. C'est un livre somme et que l'on doit à deux grands spécialistes, à Fabrice Blin, qui est réalisateur, mais aussi qui est le biographe officiel de René Laloux, et puis Xavier Kawatopor, un Topor qui n'a rien à voir avec le Roland, oui. Topor, qui est historien, écrivain, ouais. Vraiment directeur artistique spécialisé dans l'animation. Et donc là, il propose un ouvrage de référence sur ce film culte, mais finalement dont on méconnaissait un peu l'histoire.
Mais oui, c'est vrai, c'est un film classique, mais on connaît peu. Finalement, il faut aussi resituer ça dans l'époque. Hein. C'était à l'époque de l'animation en 2D. C'est important de le dire. Ouais. La Planète Sauvage, c'est quoi, Dick? Résumez-nous ce film qui a une facture aussi, une beauté formelle et musicale très particulière.
Oui, c'est un OVNI, c'est un objet de science-fiction non identifié. Un long métrage, hein, donc 72 minutes d'animation, librement adapté d'un roman français, un roman de Stéphane Will, qui s'appelait Hommes en série, le dernier d'une toute une série de romans parus en 57, dans lequel cet auteur développe un peu une sorte de vision dynamique des civilisations, c'est-à-dire qu'elles auraient besoin d'adversité pour maintenir leur force en éveil. Il faut des environnements hostiles pour que les civilisations perdurent. Et donc, il y a une dimension épique assez importante qui rappelle un petit peu l'histoire de l'esclave gladiateur Spartacus, hein, vous savez, de la révolte, ouais. Qu'il a menée contre Rome. C'est un peu ce schéma qu'on va retrouver. C'est donc vraiment la science-fiction adulte, non pas qu'il y ait des choses olé olé, hein, mais c'est que l'intrigue est complexe et mature, même si je suis sûr que les adolescents d'aujourd'hui seront très sensibles aux messages politiques et écologiques qui se trouvent dans le film.
Très moderne, hein, parce qu'on le rappelle, hein, c'est 1973, c'est
absolument.
Un film qui a plus de 50 ans.
Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film va être récompensé du prix spécial du jury à Cannes, un film d'animation, prix spécial du jury à Cannes, c'est quand même pas tous les jours, effectivement, et il y a eu un phénomène d'engouement autour du film. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce film? L'histoire n'est pas simple, je vais essayer d'être très bref. On est sur une planète, la planète Igam, où vivent des drags. Ce sont des géants humanoïdes à la peau bleue et aux yeux rouges. Ils sont vraiment au sommet de la connaissance, hein, c'est-à-dire que ils passent leur temps à méditer d'ailleurs. Et ils possèdent pour animaux familiers des OMS, O-M-S, qui ressemblent évidemment terriblement à vous et moi,
ouais,
à des hommes,
humains, quoi, ouais. Ouais,
qui sont rapportés d'une lointaine planète dévastée. C'est un animal de compagnie en quelque sorte. Et un petit bébé homme est confié à un drague. La petite créature va grandir et en fait elle va profiter. Voilà un petit mécanisme, un petit truc scénaristique. Elle va profiter de l'enseignement de la fillette drague à qui ce petit homme a été associé et va devenir de plus en plus intelligent et éduqué. Finalement, va s'enfuir des dragues et puis va découvrir d'autres hommes sauvages. Il va leur apprendre des choses. Cette peuplade d'hommes va évidemment devenir une menace, en fait, pour ceux qui habitent sur cette planète, les fameux Drags. Et finalement, ces hommes vont essayer de quitter cette planète pour trouver une autre qui serait une planète sauvage.
Ouais.
Alors, on voit bien hein, les thèmes, évidemment, la question du savoir, le joug, la révolution, la révolte, et puis des thèmes de conquête spatiale aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que tout l'intérêt du film vient évidemment du visuel, on va y revenir, mais aussi du musical,
ah ouais.
Puisque l'atmosphère, le récit, l'ambiance sont vraiment portés par les sonorités du film et elles sont confiées à deux grands musiciens. Il y a Jean Guérin qui est un musicien de jazz qui fait vraiment le travail de sound design du film à base de bruit électronique produit par des synthétiseurs. On a une ambiance extrêmement immersive, très étonnante. Il faut inventer évidemment tous les sons de ces planètes hein. Et donc c'est un discours sonore pratiquement qui propose un univers onirique et poétique. Et puis, donc, c'est aucun bruitage réaliste, évidemment,
ouais.
Là-dedans.
Mmh.
Et puis, un deuxième musicien, hein, qui est Alain Goraguet, pianiste ouais. de jazz, célèbre à l'époque parce qu'il c'est l'arrangeur de Bobby Lapointe, de Serge Gainsbourg. Il travaille sur Poupée de cire, Poupée de son, et puis il va travailler avec Adamo, Brigitte Bardot, Joe
ouais.
Dassin, etc. Et Goraguet va faire les thèmes lancinants du film, portés à la guitare, par une guitare, mais une guitare qui doit beaucoup aux pédales, hein, les fameuses pédales wah-wah, comme
ouais.
on disait, les pédales fuzz.
Ouais.
Et c'est assez nouveau, et ça crée des étrangetés dans le film. Et dès les premières images du film, par exemple, il y a des chœurs féminins extrêmement envoûtants, hein, comme des chants de sirènes, qui vous emportent vraiment dans un univers étrange et inquiétant. Je ne sais pas si on peut écouter
on
peut-être
a un extrait,
un morceau, oui.
Justement, ça tombe bien. On a un extrait de cette musique qu'on écoute pendant quelques secondes, la musique donc d'Alain Goraguet pour La planète sauvage. Un extrait de la bande originale de La planète sauvage. Ça rappelle d'autres thèmes, évidemment, hein, parce que à l'époque, il y avait aussi un certain François de Roubaix qui faisait de la recherche musicale pour des bandes originales de films. Ça, c'est au niveau de la beauté formelle, évidemment.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette musique, en fait, le long métrage a été comparé à Yellow Submarine, bizarrement, de Georges Dening.
Ouais,
et en fait, les deux films vont être souvent exploités ensemble à l'international. Or, c'est assez amusant parce que les auteurs, justement, Lalou et Topor, n'ont absolument jamais voulu faire un film psychédélique. Ils sont très loin de Peace and Love.
Ouais.
Eux, leur référence, c'est vraiment le surréalisme.
Eh bien, parlez-nous justement de René Laloux et de Roland Topor, qui sont les co-auteurs de cette planète sauvage, Dick.
Oui, Laloux, c'est un... Bon, il fait toute sa carrière dans le cinéma d'animation, en fait. Il a commencé par faire des courts-métrages dans un établissement particulier. C'est une clinique psychiatrique, où travaille notamment Félix Guattari, hein, vous savez, le fameux psychanalyste et philosophe français qui était complice de Gilles Deleuze.
Mmh.
Et donc, il fait des courts-métrages avec les patients. Donc on voit qu'il travaille déjà une forme d'étrangeté qui vont l'amener à produire d'autres courts-métrages très remarqués. Et puis, il va se lancer dans trois longs-métrages ambitieux. Il y aura Planète sauvage en 73, Les maîtres du temps en 82, qui est associé au journal Métal Hurlant et qui est un grand film de science-fiction aussi, dessiné par Moebius.
Ouais.
Et puis en 87, Gandahar. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans une rencontre déterminante avec Roland Topor, artiste vraiment pluridisciplinaire. Il a tout fait, hein. Dessin, peinture, théâtre, de la chanson, acteur, cinéaste, poète, et qui bon, parmi toutes ses activités, écrit notamment des scénarios, propose des illustrations. On lui donne des fameuses illustrations d'affiches célèbres, comme le tambour de Schlondorf, par exemple, ou l'Empire de la Passion de Shima. Vrai touche à tout. On le connaît aussi, moi je l'ai connu comme ça d'abord, comme l'auteur évidemment de Téléchat.
Mais oui.
Voilà, avec les marionnettes, gros chat, Lola, les gluons, le micro-migmac et le fameux légumane.
Mais c'était un personnage aussi, hein.
Personnage absolument fabuleux et très étonnant. Et c'est lui qui va laisser vraiment libre cours à son imagination surréaliste et qui va faire tous les dessins de référence de La Planète Sauvage. Et donc, ce film, il est vraiment signé de ces deux auteurs un peu.
Avec un choix esthétique particulier, Dick.
C'est l'animation de papier découpé, ce qu'on appelle du cut-out, dont en fait, c'est un peu comme une marionnette, mais vous avez un personnage en papier qui est en 2D. Les parties de son corps sont indépendantes et on n'a plus qu'à... faire bouger la tête, les jambes et les pieds autour de points d'articulation, de points de jointure. Alors, évidemment, c'est un travail assez différent du cellulo, de l'animation traditionnelle. Il faut absolument tout redessiner, en quelque sorte, ou presque tout. C'est un travail aussi, s'il est un peu plus rapide de ce point de vue-là, qui est une esthétique assez particulière, puisque on peut jouer sur la temporalité. On ne vise pas la fluidité parfaite. On travaille sur des temps hachés, sur des pauses, sur des stases. C'était assez en vogue dans les années 70. Pour donner un point de référence, on en trouve dans les animations des Monty Python, dans les années 70, à ce moment-là. Alors, il y a des qualités très précises à ce papier découpé et ça demande quand même un financement particulier. Topor et Lalou ne le trouvent pas en France et ils vont devoir partir en effet à Prague avec 25 personnes pour travailler sur les un peu plus de 1000 plans du film. On revient dans le livre sur la confection assez difficile du film à Prague. Lalou racontant que ce type d'entreprise, c'est comme faire la guerre en quelque sorte. Mais au total, ça reste une formidable réussite artistique et ça donne surtout un film d'une singularité totale. Cette musique, on l'a dit, ce scénario assez improbable qu'on n'imaginait pas dans un film d'animation et qui change ce qu'on croyait savoir du film d'animation, souvent réservé aux enfants à l'époque et aux des choses plus divertissantes. Et puis, bien entendu, un visuel tout à fait stupéfiant.
Il nous reste 2 minutes pour encore évoquer, Dick, ce film La Planète Sauvage. Mais évoquer les références, finalement, sur lesquelles il s'est battu, ou bâti, plutôt. Et puis aussi, l'héritage qu'il reste de ce film de 1973.
Oui, bâti et battu, c'est bien ça, parce qu'effectivement, il y a des références qui sont là, mais il a fallu se les approprier, en quelque sorte.
Il a fallu se battre.
Il est évident qu'il y a du Jérôme Bosch, il y a de la caricature de Granville, il y a des illustrations de Gustave Doré qui sont là, dans la tête de Topor, il y a la peinture symboliste. En vérité, le film est un peu pensé comme un cabinet de curiosité. Et donc, il nous renvoie à Bosch, à Odilon Redon, à Alfred Cubin aussi, d'une part, et puis d'autre part aussi, à toute la peinture surréaliste, et sans doute dans le ton. Et ça, c'est vrai que René Lalou est très attentif. Il définissait d'ailleurs le surréalisme, la peinture surréaliste, comme une espèce de docteur Freud qui rencontrerait une ligne d'horizon. Et c'est cette idée-là qui va être travaillée. On va retrouver comme ça des sources. On va penser à Yves Tanguy, on va penser à Salvador Dali, on va penser à Max Ernst à plus d'un moment. Et puis dans le rapport au temps, à la suspension, très souvent, on a l'impression d'être devant un tableau de Géricault ou de Magritte, par exemple. C'est vraiment riche, complexe visuellement. Alors, en termes d'influence et d'héritage, pour y dire vite, ça a vraiment profondément marqué toute une génération de réalisateurs d'animation. Je pense à Michael Dudok de Witt, par exemple, qui a réalisé La Tortue Rouge, ou Xavier Kawatopor, qui a écrit ce livre aussi, dit bien à quel point le film a été une grande influence au Japon, que Go Nagai, le créateur de Goldorak, Tezuka, le créateur d'Astro le Robot, comme Miyazaki, ont beaucoup vu ce film et l'ont soutenu, en vérité. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il en reste quelque chose. Et sur les écrans, on a pu voir tout récemment le très beau Mars Express de Jérémy Perrin, film de science-fiction qui emprunte à Ghost in the Shell comme à l'Odyssée de l'espace, mais qui emprunte avant tout à l'univers de René Lalou, au Maître du Temps, mais aussi à La Planète Sauvage, sans qui rien n'aurait été sans doute possible.
Voilà, il y a donc le livre, évidemment, très beau livre donc de Fabrice Blin et Xavier Kawatopor, L'Odyssée de la Planète Sauvage, chez Capricci, et puis, évidemment, il y a aussi les DVD, donc il y a moyen, évidemment, de voir ou de revoir cette planète sauvage. Merci beaucoup, Dick Tomasovic.
Avec beaucoup de plaisir.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.